vous m'en direz tant ?
Avez-vous fait des économies pour partir en vacances ? Si ce n'est le cas, il est encore temps d'ouvrir une cagnotte en ligne. Vous verrez, le résultat est parfois surprenant. C'est le tout dernier habit de la générosité. Et c'est aussi l'occasion d'analyser ce comportement étrange qu'est la générosité, la charité. Est-ce que la charité, comme le rire, dit-on, est le propre de l'homme ? Difficile de répondre à cette question. L'entraide laissant moins de traces visibles des paléontologues que les massacres. Mais on observe cela chez certaines espèces animales. Alors pourquoi pas aussi chez l'homme ? On oppose souvent la charité à la solidarité. Le résultat pourrait être finalement le même. Mais dans l'esprit des gens, la solidarité est un fonctionnement social, alors que la charité serait davantage une démarche individuelle. Le principe commun est quand même que ceux qui ont beaucoup partagent avec ceux qui ont moins, ce qui n'est sans doute pas instinctif. C'est un fait de civilisation. Certaines religions prônent la générosité et le partage. C'est par exemple un des piliers de l'islam, au même titre que la prière, le jeûne, le pèlerinage. Chez les chrétiens, le partage est également à l'honneur. Cela dit, ces religions ont quand même voisiné et voisinent encore avec des sociétés très inégalitaires, ce qui pose question. Quelle est la psychologie de la charité ? De quoi est faite la charité ? Il y a sans doute la compassion. Mais il peut aussi y avoir un vague sentiment de devoir, religieux par exemple, qui soulage peut-être la conscience. Je ne sais pas s'il faut appeler cela du ruissellement, mais le fait est le même, encore que très limité. Les miettes des riches nourrissent les pauvres. Reste que faire la charité à quelqu'un, et sans doute encore plus la recevoir de quelqu'un, est une forme de lien social qui laisse des traces psychologiques. Généralement, on n'aime pas trop être redevable envers quelqu'un et on préfère généralement que la puissance publique, bien plus anonyme, serve d'intermédiaire. C'est là la supériorité de la solidarité sociale sur la charité chrétienne ou pas. Mais la solidarité organisée politiquement a ses limites. D'une part, ceux qui profitent de l'organisation économique de la société veillent à ce qu'elle reste tout de même limitée. Et surtout, elle est affligée d'une terrible inertie. Elle est le plus souvent en retard sur la nécessité, sans compter qu'elle ne peut être que générale et incapable d'atteindre des cas particuliers. Solidarité et charité sont donc probablement complémentaires et des événements récents en attestent, comme le phénomène des Restos du Cœur, qui viennent au secours de ceux qui touchent déjà le RSA. Des fameux Téléthons, qui ont dirigé vers un aspect particulier de la recherche, pourtant subventionnée par l'État, des sommes significatives. Mais dans ces deux exemples apparaît un nouveau moteur de la charité. Ce n'est plus une simple injonction religieuse ou morale. C'est un effet d'entraînement. Pour faire une bonne campagne de levée de fonds pour une cause, il faut déjà que la cause soit estimée du public. Et si elle ne l'est pas spontanément, il faut en faire la promotion. Télévision, vedettes en tout genre ne sont pas de trop. Il faut que le don soit agréable. Par exemple, assorti d'un spectacle, et que le donateur potentiel se sente pris dans un mouvement de masse et, à contrario, honteux de n'y point participer. Enfin, il faut vaincre un obstacle considérable, la difficulté de donner. On ne rit pas. Envoyer un chèque à une association est un effort qui certes est minime, mais qui peut faire pencher la balance du mauvais côté. Pour ma part, mon banquier envoie tous les mois de l'argent à des ONG sans que je sache très bien combien et qui elles sont exactement. surtout qu'elles sont nombreuses à faire la même chose. Je ne fais aucun effort. C'est évidemment tout à fait autre chose que de donner son temps pour animer les Restos du Cœur, ce qui peut devenir en réalité un travail à plein temps, réservé plutôt à des retraités qui s'ennuient. C'est là que les nouvelles technologies informatiques, les NTIC, ainsi qu'on les appelait il n'y a pas si longtemps, interviennent pour faciliter la tâche, la rendre totalement indolore et banale. Observons maintenant, à la lumière de ces quelques réflexions, le fonctionnement des cagnottes en ligne. Il y a au départ une situation susceptible d'engendrer la compassion. Ça ne manque pas, hélas, mais il faut la médiatiser. Il y a ensuite un animateur qui entreprend une action originale et qui attirera l'œil, au moins des médias. Ça peut aller de faire le Tour de France en patinette à, plus raisonnablement, une marche un peu longue. Le trajet, dans ce cas, est très important et il doit être adapté à la répartition géographique du public visé. Faire le tour du Cher à pied n'intéressera pas les Bretons, mais sera visible des habitants du Cher de manière un peu pérenne. Il est très important que l'action fasse l'objet d'un reportage, si possible quotidien. Il y a ensuite un médiateur informatique qui met en ligne la démarche, récolte en toute sécurité les fonds et, le plus souvent, les remet aux bénéficiaires de l'action, moyennant parfois un petit bout de marge, il faut bien vivre. Il y a une bonne dizaine de ces sites permettant de lancer en ligne des cagnottes en quelques clics de souris. À vrai dire, ces plateformes ne sont pas réellement dédiées à des collectes caritatives importantes. Leur usage habituel est plutôt de récolter de quoi faire un cadeau collectif pour celui qui part à la retraite dans une entreprise ou qui se marie, parfois d'organiser un gueuleton sans être obligé de rejouer la scène de l'addition immortalisée par Muriel Robin. Le plus souvent, ça marche. Et des gens dont on ne soupçonnait même pas l'existence se montrent généreux envers d'autres qu'ils ne connaissaient absolument pas. La principale explication à cela réside dans la facilité de la démarche. Après le coup de semonce donné à nos institutions par l'abstention des derniers scrutins, on a évoqué le vote électronique. Si l'effet sur la participation est comparable à celui observé sur les cagnottes en ligne, c'est sans doute une bonne idée. Sauf que les cagnottes en ligne ne sont qu'un moyen, un commencement. Au contraire, le vote est un aboutissement. Avant de voter, il faut savoir, il faut écouter, il faut lire. Qu'en sera-t-il pour le vote en ligne ? Et puis, après le vote, il faut encore adhérer à la politique des élus, continuer à les suivre, éventuellement les critiquer. Après les cagnottes en ligne, l'indifférence suit le plus souvent le don. On a cliqué, c'est fait, on oublie. Le vote en ligne pourrait avoir les mêmes effets, peut-être finalement pire, que l'abstention.